RCF.
Une femme à la tête du Louvre, une première dans l'histoire du plus grand musée du monde. L'information est tombée quelques jours avant l'enregistrement de notre table ronde Interaction RCF. Voilà de l'eau à notre moulin pour répondre à la question « La parité dans la gouvernance, est-ce un objectif atteignable ?» Un débat presque paritaire, puisqu'autour de la table, nous avons Christophe Milazzo, journaliste de Interaction, et moi-même, qui vous accueillons, Cécile Grosjean, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Christelle Moirot, maire de Marbeau, Emmanuelle Perret, vice-présidente de Femmes Chef d'entreprise 01, Marc Dupont, président de l'ADAPA, Association d'aide à domicile, et Renaud Drouy, directeur de l'AGLCA, Maison de vie associative. Alors Christophe Milazzo, pourquoi le choix de ce thème, la parité dans la gouvernance ?
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors effectivement, depuis plusieurs décennies, la parité s'impose comme un vrai sujet dans la société. On en parle, on en réfléchit, on essaie de trouver des solutions, on légifère. Mais les chiffres nous montrent que si les progrès sont bien là, il reste encore du chemin à faire pour l'atteindre. Que l'on soit en entreprise, que l'on soit dans le milieu associatif ou que l'on soit dans une assemblée d'élus, la parité n'est pas encore une réalité absolue, même si quand on a dit ça, on est loin d'avoir abordé toute la complexité et la diversité du sujet. Alors justement, vu que ce sujet est très vaste, on a décidé de se centrer sur la question de la parité dans la gouvernance. C'est une réflexion qui nous est venue en examinant le social, qu'on connaît bien, Interaction, où les hommes sont plutôt en infériorité numérique dans les équipes, mais si on regarde les instances de gouvernance, on cherche plutôt les femmes. Donc au-delà de ce cas précis, aujourd'hui avec nos invités, le but c'est de pouvoir examiner, puisque nos invités viennent d'horizons très variés, où on en est en termes de parité aujourd'hui dans le département de l'Ain, au-delà des représentations parfois fausses qu'on peut avoir, ou des grandes idées et principes qu'on a en tête, et puis revenir sur les freins, ce qui empêche d'arriver à cet objectif, et de manière plus positive, voir les initiatives qui permettent de lever les derniers obstacles.
Alors, à premier tour de table, avec cette question, la parité dans la gouvernance, est-ce un objectif atteignable pour vous, Cécile Grosjean, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité ?
Bonjour. Oui, c'est un objectif atteignable. D'ailleurs, grâce à certaines lois, on a pu effectivement atteindre un nombre paritaire ou s'approcher très fortement de la parité dans certaines organisations. Donc c'est possible, mais il y a des progrès à faire pour que cette parité aussi imprègne d'autres échelons. Qu'on ne reste pas à une parité élitiste, mais qu'on soit bien dans une parité générale, dans toutes les sphères.
Emmanuelle Perret, femme chef d'entreprise 01.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis pleinement d'accord. L'objectif est atteignable. La question, ce sont plutôt les moyens qu'on va mettre pour atteindre l'objectif. Donc, que ce soit effectivement des moyens en termes de loi. Donc, la loi Copé-Zimmermann a effectivement rencontré un fort succès. Mais aussi des moyens plus à l'intérieur des entreprises, au niveau politique, etc.
Christelle Moirot, maire de Marbeau.
Oui, je pense que la parité est atteignable. Ma décision de devenir maire est déjà un petit peu le fruit d'un certain parcours, d'une certaine histoire à ce niveau-là dans le domaine politique. Parce que c'est vrai qu'on est obligé maintenant d'avoir un homme, une femme et que ça change aussi beaucoup la donne par rapport à l'engagement. Et après, il faut que les femmes s'en emparent aussi et que chacun s'en empare d'ailleurs, les femmes et les hommes, de cette parité.
Marc Dupont pour l'ADAPA.
Oui, mais c'est un objectif atteignable. Il va pas de soi. C'est un combat, on pourrait dire, quasiment permanent pour trouver dans la gouvernance des candidates qui acceptent de se présenter et au conseil d'administration et ensuite au bureau de l'association. Mais en tout cas, c'est un objectif qu'on a toujours en ligne de mire.
Renaud Drouy, dans le domaine associatif que vous connaissez bien à la GLCA.
Alors, dans le domaine associatif et puis dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, d'une façon plus générale, alors je vais répondre par l'affirmative également. Simplement, ça dépasse la question de la loi, je pense. Ça va toucher, en fait, à l'organisation du travail, ça va toucher à l'organisation familiale. Et on sait bien qu'il y a la loi et il y a l'esprit de la loi, disait Montesquieu, mais il y a aussi, au-delà, c'est comment on l'applique. Et c'est vraiment, une bonne loi peut ne pas avoir, en fait, de résonance si derrière, on ne met pas les moyens en place pour qu'elle puisse s'appliquer.
Cécile Grosjean, vous avez pris vos fonctions le 1er septembre 2020 et depuis vous découvrez les réalités de notre département. Quel constat faites-vous en ce qui concerne la parité dans la gouvernance ?
Le département de l'Ain est traversé par les mêmes tendances que l'on peut retrouver ailleurs en France. Donc il y a effectivement des écarts entre les hommes et les femmes, des écarts dans le taux d'emploi, par exemple dans l'Ain, qui est de 7 points entre les femmes et les hommes, des écarts de rémunération, on est à 16% d'écart de rémunération dans le département entre les femmes et les hommes. Néanmoins, ce sont des tendances qui sont un peu plus favorables dans l'Ain. Il y a une situation économique quand même plus avantageuse dans le département. Et donc, on est sur des écarts moyens qui sont un peu plus faibles dans le département qu'ailleurs en France. Mais voilà, les inégalités existent, elles sont présentes. Au plan de la gouvernance, au plan politique, par exemple, on a eu des chiffres du ministère de l'Intérieur, après les élections municipales. On voit qu'il y a un peu plus de femmes maires dans le département de l'Ain, notamment pour les communes de moins de 1000 habitants, parce que aussi ce sont des communes plus petites et on voit que les femmes ont pris leur place dans les instances de gouvernance, quel que soit le secteur, dans les structures un peu plus petites. Alors les chefs d'entreprise, elles sont davantage dans les petites entreprises. Les femmes sont davantage à la tête de petites associations et voilà, à la tête de communes un peu moins fournies en nombre d'habitants. Ça fait quand même de ce département, ça le place dans une situation
moins pire.
Ça dépend de la façon dont on présente les choses, mais il y a des inégalités, mais voilà, ce département se défend bien.
Ouais. On peut peut-être rebondir sur la question politique avec les femmes à la tête de communes, donc peut-être effectivement à la tête de petites communes, mais moi, si j'ai bien compté, j'ai compté 77 femmes maires sur 393 communes, donc il y a encore
du progrès, du chemin à faire.
C'est peut-être moins pire, mais on a encore de la marge. Hein.
Ouais.
Christelle Moirot.
C'est vrai que je pense qu'une femme, quand elle décide de s'engager en tant que mère, elle ne se pose pas les mêmes questions qu'un homme. Il y a une adhésion du couple qui doit être vraiment... Je pense qu'elle ne va pas partir seule, bille en tête, pour des seules raisons politiques. Après, je trouve que les femmes, de toute façon, dans les équipes, sont obligées maintenant de s'engager. Et c'est vrai que quand on forme une équipe où on sait qu'on aura la parité, ça oblige vraiment à aller chercher tout le monde. Donc, finalement, c'est quelque chose qui peut nous rendre service. Et moi, à mon avis, je n'étais pas forcément pour cette parité au départ, sur l'idée simple de décider comme ça, on va faire des quotas, des choses comme ça. Mais au final, je me dis que ça fait sûrement avancer l'histoire et les choses, les institutions.
Christophe Milazzo, une question.
Il faudrait aller plus loin justement dans ces quotas, parce qu'on sait que ça peut être un frein parfois pour certaines communes qui ont peiné à trouver des femmes, notamment peut-être dans les plus petites communes, pour pouvoir boucler des listes. C'est un frein ou...
Non, je pense que bon, c'est vrai que là, du coup, de toute façon, c'est partagé, hein, donc on est à moitié-moitié. Il faut absolument trouver les personnes. Et c'est vrai que les femmes, c'est plus difficile d'aller les chercher, de leur dire mais si tu vas vraiment le faire. Elles manquent de confiance. Il faut les inciter à s'impliquer dans des commissions qui ne sont pas féminines. Voilà, il faut essayer de les tirer un petit peu vers les commissions voirie, bâtiment. Parce que c'est très important d'avoir ce regard partagé justement sur le village, la ville. Je trouve qu'il y a vraiment un intérêt dans toutes les commissions. Elles se disent non, mais moi je ne suis pas technique, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus parce que je n'y connais rien. Mais non, en fait, c'est très important d'avoir le double regard sur toutes les questions.
Concernant la rémunération, est-ce que vous avez fait des constats aussi, Cécile Grosjean, sur les écarts entre les hommes et les femmes, donc qui sont plutôt à la tête, soit d'entreprise, soit...
Les écarts de rémunération, ils sont très documentés au plan national. On sait que il y a une différence, y compris à poste égal, à compétence égale, une différence de rémunération inexplicable entre les hommes et les femmes, qui est de l'ordre de 9-10%, et qu'on ne sait pas expliquer autrement que par de la discrimination pure à l'encontre des femmes. Ce sont des faits vraiment objectifs qui nous permettent en fait de s'arrêter pour discuter de ces sujets-là. Il faudrait effectivement que dans chaque entreprise, chaque association, chaque ministère également, enfin dans le secteur public, ces différences de rémunération existent aussi, ces sujets de discussion soient vraiment à la table et qu'on mette en place un diagnostic, des plans d'action, qu'on fasse déjà, donne droit aux augmentations auxquelles les femmes ont droit quand elles rentrent de congé maternité, par exemple. Voilà, parce qu'on sait bien que les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes. Mais quand on annule tous ces effets-là, de temps partiel, de différence de poste, de différence de compétences, on arrive à cet écart inexplicable.
Un constat du côté des entreprises, justement, Emmanuel Perret, de l'association Chef d'entreprise Zéroin.
Les femmes chefs d'entreprise de l'Ain. Donc effectivement, nous, on a un constat qui est plus contrasté que le constat général, puisque en fait, en moyenne, il y a 30% de femmes chefs d'entreprise en France, et nous, dans l'Ain, il y en a moins de 20%. Donc on est là, pour le coup, dans une tendance plutôt moins bonne que le national. Si on prend le sujet de la rémunération, une femme chef d'entreprise aujourd'hui gagne 31% de moins qu'un homme chef d'entreprise aujourd'hui. Donc là, c'est au niveau national, hein, je n'ai pas les données au niveau de l'Ain. Alors après, on trouve des explications, effectivement, que les entreprises qu'elles dirigent sont souvent plus petites, mais aussi clairement que les femmes chefs d'entreprise travaillent moins que leurs homologues, puisque à côté, elles ont encore la gestion familiale, etc. Donc tout ça pour dire effectivement que il y a vraiment du travail sur ces sujets. Et puis après, y compris sur la partie des... Donc là, je suis vraiment sur les femmes chez l'entreprise, mais en termes, j'allais dire, y compris sur la partie des comités de direction, où là, où c'est pas légiféré actuellement. Donc là, le constat, il est... Il est évident, il y a moins de 20% de femmes qui sont dans les postes de direction. Et quand elles y sont, souvent, c'est sur des postes dits féminins, quoi, RH, etc. Voilà. Et puis, si on reste vraiment sur le département de l'Ain, sur la partie économique, nous, nos interlocuteurs, hein, ils sont principalement masculins. Président de la CCI, président de la Chambre des métiers, président du MEDEF, et ainsi de suite. Alors, on a à CGPME une présidente, et on est contente.
Combien d'entreprises dans l'Ain sont gérées par des femmes?
Alors là, je sais.
Vous n'avez pas le chiffre en tête.
Pas le chiffre, je sais que c'est 20%, mais je ne saurais pas vous dire. Après, est-ce que je peux vous
avec
dire...
Avec des domaines particuliers, ouais, par
voilà.
exemple.
Donc, plutôt dans le commerce, enfin des commerçantes, plutôt sinon des entreprises... de petite taille aussi, on va retrouver du conseil. Et puis après, on va retrouver des entreprises qui vont être plutôt des PME dans tous les secteurs qu'on a dans l'Ain. Mais du coup, sur cette partie-là, on arrive vraiment sur un très faible pourcentage. Enfin, je veux dire, si on enlève toutes les structures unipersonnes, on enlève beaucoup de femmes chez l'entreprise dans l'Ain. Je parle dans l'Ain.
RCF Pays de l'Ain, émission spéciale.
Table ronde interaction RCF sur le thème la parité dans la gouvernance, est-ce un objectif atteignable? On a commencé un peu l'état des lieux concernant notamment la présence des femmes dans l'administration des communes ou à la tête d'entreprises. On peut peut-être continuer avec le milieu associatif. Alors, soit avec vous, Marc Dupont, vous êtes président de l'ADAPA. Donc, l'ADAPA, ça doit être une association d'aide à domicile qui doit embaucher beaucoup de femmes, j'imagine.
Alors, non seulement on en embauche, mais le 98% du personnel est féminin. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça nous pose d'autres problèmes par rapport aux mécanismes de scoring qui sont prévus par le Code du travail. Et donc, c'est un peu trop compliqué et un peu trop technique pour qu'on aborde ça ici, mais c'est l'inverse de la parité, quoi. Et on a eu des discussions parfois un peu compliquées avec la direction départementale avec la directe, comme on dit maintenant. Voilà. Sinon, donc, 98% de femmes sur un effectif d'environ 800 personnes. Et jusqu'à présent, un comité de direction qui était à 100% féminin. Et c'est simplement avec le remplacement de la directrice générale qui vient de faire valoir ses droits à la retraite qu'un homme fait son apparition comme directeur général de l'association depuis début avril 2021.
Donc la parité progresse.
La parité progresse, oui, c'est ce que nous disait la directe, il faut faire progresser la parité. Et puis, alors par contre, c'est vrai que si on regarde les instances de gouvernance, les choses sont un peu plus partagées. On a un conseil d'administration, j'ai refait encore les statistiques, il y a 21 membres, et on a 10 femmes et 11 hommes. Donc c'est pas mal. Là, on va avoir 5 départs dans le conseil d'administration d'hommes et un départ de femmes. Donc on va essayer à cette occasion de rééquilibrer encore les affaires. C'est un peu plus compliqué sur le bureau de l'association, qui est un peu l'organe pilote, si on peut dire, puisque là, sur les 8 membres du bureau, il y a 6 hommes et 2 femmes. Donc là encore, bon, bah, on va essayer à l'occasion des départs, des élections, on a une assemblée générale bientôt, de faire monter en responsabilité les femmes qui accepteront de les porter. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas aussi simple que ça, quoi.
Qu'est-ce qui rend la chose difficile de recruter pour des instances donc, de direction d'association?
Il faut qu'il y ait des candidates. Puisque par définition, pour rentrer au conseil d'administration, il faut être candidat. Il faut être élu, ça c'est en général pas trop un problème, parce qu'il n'y a jamais pléthore de candidats. Mais il faut d'abord trouver des candidates qui acceptent de participer.
De prendre des responsabilités.
Voilà. Et donc c'est un travail de sourcing, si on peut dire, pour reprendre un terme du recrutement dans les entreprises, quoi. Donc il faut être attentif à toutes les personnes qui émergent et qu'on peut repérer, solliciter. Alors c'est vrai aussi que le fait que l'ADAPA soit une association départementale dont le siège est à Bourg, ça facilite pas forcément les choses.
Ça fait compliqué.
Parce que j'en suis témoin ce matin, il faut 1h30 pour venir. Et quand on a des travaux à Ambérieux, à l'autoroute, à l'entrée de Bourg, etc., c'est toujours un peu compliqué. Mais de ce point de vue-là, je pense que par exemple le recours à la visioconférence ou des choses comme ça, c'est un élément facilitateur dont on n'a peut-être pas encore complètement mesuré l'impact, mais qui peut être un bon outil de ce point de vue-là.
Qui pourra aider à atteindre cette parité dans la gouvernance peut-être.
Bah, ça facilite la participation pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que dans un département qui est quand même très, très vaste et très diversifié, de ce point de vue-là, ça peut être un bon outil de facilitation.
On peut peut-être continuer l'état des lieux avec Renaud Drouy, donc et le milieu associatif. Quel constat est de l'économie sociale et solidaire aussi?
Très partagé avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a un constat, par exemple, sur le salariat. 69% de femmes sont présentes dans l'économie sociale et solidaire et dans les associations. Et pourtant, on ne retrouve que 13% de femmes qui sont cadres dans les associations. Ça vous donne un petit peu l'écart. Hein, voilà. Madame Moirot, tout à l'heure, disait la question des commissions municipales où on ne retrouve pas assez de femmes. Au niveau des entreprises ou des associations, on retrouve les mêmes problématiques au niveau des secteurs d'activité. En réalité, les femmes, on les retrouve essentiellement dans l'action sociale. On les retrouve dans les structures associatives de garde d'enfants, centres loisirs, humanitaires. Et puis, là où je rejoins sur la question des commissions économiques, finances, etc., ce sont des hommes. Et là où c'est des commissions sérieuses, entre guillemets, je mets plein de guillemets, hein, on est d'accord, hein, eh ben on ne trouve que des hommes, quoi. C'est assez étonnant, mais voilà, dans des associations sur des secteurs d'activité sportifs, etc., même si le sport a fait un énorme travail hein, là-dessus et vraiment est à l'avant-garde sur ces questions-là, il faut le dire. Il faut, voilà, il y a, au niveau, je pense, du comité départemental olympique et sportif, un gros travail sur ces questions-là. Mais il n'empêche que voilà, c'est très partagé sur ces secteurs d'activité. Et puisque nous parlons de la gouvernance aussi, sur la question, on avait fait une étude il y a un peu moins de 10 ans aujourd'hui au niveau de la GCA sur un observatoire local de la vie associative sur le bassin de Bourg-en-Bresse. Et on l'avait intitulé, il y avait un chapitre qui s'appelait « Monsieur le Président, Madame la Secrétaire ». Et en fait, on a 63% en fait des hommes qui sont présidents d'associations et on a 65% des femmes qui sont secrétaires. Et pourquoi ? Parce qu'on est sur des représentations. Une femme, elle est secrétaire. Voilà. Et puis, quand c'est côté sérieux, c'est le président, c'est pas la présidente. Et c'est comment, derrière, on travaille ça. Voilà, il y a plein d'outils. L'outil autour de la visio, effectivement, qu'on découvre depuis un an, qui nous a envahis toutes et tous, en fait, est un des outils, effectivement, qui peut permettre de dépasser ces questions. Mais il n'empêche que les constats, ils sont toujours là aujourd'hui, dans le département de l'Ain, au niveau national. Pour aller plus loin, il faut une vraie volonté.
Par rapport au domaine associatif, je voulais ajouter quelque chose parce que je suis par ailleurs dans une association pour des enfants en situation de handicap. Et là, du coup, il n'y a pas de parité non plus puisque c'est vraiment que des femmes qui gèrent tout ça. Et les papas sont assez absents, en fait, de l'association. Voilà, on a du mal à trouver même un président dans cette association parce que c'est le domaine de la famille, c'est le domaine des enfants. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont moins présents dans l'association. Donc, manque de parité aussi d'un autre côté, quoi.
D'autres points que vous aimeriez ajouter sur cet état des lieux, sur la parité dans la gouvernance, Cécile Grosjean ?
Oui, là, on voit, avec ce diagnostic, ces remontées de terrain, on voit bien aussi les nœuds vraiment auxquels on a affaire. Depuis toute petite, dans l'éducation des petites filles, on valorise des compétences d'empathie, d'écoute. Et ce sont des compétences, après, qu'on assimile naturellement aux femmes. Finalement, cette éducation-là aussi les conduit à investir des métiers en lien avec le soin, en lien avec l'accompagnement, les services à la personne, des métiers qui ne sont pas non plus valorisés à leur juste valeur parce que ce sont des métiers dont les compétences sont jugées naturelles. Donc finalement, ce ne sont pas des vraies compétences qui se rémunèrent, mais naturellement, les femmes seraient comme ça. Donc il faut aussi faire attention à chacun, à son niveau, déconstruire les stéréotypes qui conduisent à des discriminations après à l'encontre des femmes. Donc c'est une action à la fois individuelle et collective. Au plan collectif, évidemment, l'État intervient pour faire voter des lois, rappeler le cadre républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, proposer aussi chaque ministère est engagé hein, dans cette politique de parité d'égalité femmes-hommes, donc propose des guides très concrets, vraiment, voilà, pour mettre en place l'égalité dans le domaine du sport, dans le domaine associatif. Et après, c'est vraiment à chacun de s'emparer de ces outils-là, d'essayer de les faire vivre dans ces structures. Et moi, en tant que déléguée départementale aux droits des femmes, je suis là aussi dans le département pour appuyer toutes les associations, les entreprises, les organisations professionnelles qui ont envie de s'investir et de mettre en œuvre concrètement l'égalité et la parité dans leurs organisations.
Emmanuel Perret.
Déjà, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, sur tout ce qui est biais cognitif, stéréotypes. Ça, c'est des choses dont on voit les faits encore aujourd'hui, qui sont présentes auprès des enfants. Moi, j'avais eu l'occasion de lire un rapport de l'Université de Caroline du Sud qui disait que dans un entretien de recrutement, une femme était plus interrompue qu'un homme, pour des postes de direction, notamment. Voilà, c'est des choses qui sont présentes aujourd'hui. Et je voulais ajouter aussi un point sur la question aujourd'hui en termes de constat. Donc, dans le CAC 40, il y a une seule femme qui est PDG aujourd'hui. Donc, c'est celle qui dirige Engie. Et si on regarde dans les dernières nominations DG qui ont eu lieu, donc en 2021, il y a zéro femme qui ont été nommées DG. Donc ça, derrière, ça pose la question de la visibilité. Et donc après, forcément, si on fait le lien avec ces stéréotypes, s'il n'y a pas de femmes qui sont visibles, on entretient assidueusement le fait qu'elles ne sont pas capables de tenir ces postes. Je cite un dernier exemple, le cas des palmarès de type Challenge, le magazine, où il y a rarement des femmes qui sont nommées, il y a rarement de portraits de femmes, même si ça encore, ça évolue, mais pas suffisamment, quoi. Il y avait une étude qui avait été menée par McKinsey en 2017 qui démontrait que les entreprises qui avaient un pourcentage de femmes leaders plus élevé étaient plus performantes que les autres. Alors, performance managériale, économique, commerciale, tout type de performance. Et si maintenant on se centre sur les PME, il est aussi démontré qu'une PME dirigée par une femme est plus rentable qu'une PME dirigée par un homme.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire savoir, pour que, justement, les images changent.
RCF Pays de l'Ain, émission spéciale.
La parité dans la gouvernance, est-ce un objectif atteignable? C'est la question posée aujourd'hui pour cette table ronde interaction RCF. On vient d'entendre Emmanuelle Perret, vice-présidente de l'association Femmes Chefs d'Entreprise 01, et Cécile Grosjean, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. On a aussi autour des micros Christelle Moireau, maire de Marbeau, Marc Dupont, président de l'ADAPA, et Renaud Drouy, directeur de l'AGLCA. Alors on a fait un état des lieux. Peut-être qu'on peut revenir sur les freins. On vient d'y faire allusion, sur notamment l'image et l'absence des femmes dans les médias, par exemple. C'est un des freins. Quels seraient les autres freins pour faire grandir cette parité dans la gouvernance? Cécile Grosjean.
Il y en a un important, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est le cumul des mandats. En fait, c'est un phénomène vraiment masculin, que ce soit au plan politique, au plan associatif. Il y avait une étude de 2019, je crois, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui montrait qu'à près de 70%, les hommes qui répondaient à l'enquête occupaient des mandats depuis plus de 10 ans et cumulaient plusieurs mandats. Donc, le fait de limiter le cumul des mandats permet effectivement de toute façon de renouveler les personnes qui s'investissent dans ces mandats et aussi de faire entrer des femmes à ces niveaux-là.
Quand vous parlez de mandat, c'est politique ou c'est aussi mandat associatif?
C'est aussi mandat associatif, oui, tout à fait.
Et donc on est président de plusieurs associations. Et si on mettait un quota, deux associations, mais pas plus, forcément, il y aurait plus peut-être de présidentes.
Voilà, oui, et c'est vrai qu'au plan politique, je pense que c'est vraiment une action conjuguée sur le non-cumul des mandats et sur la représentation des femmes dans certaines élections qui a permis de cette montée aussi de femmes en politique.
Emmanuel Perret.
Sur les autres freins, enfin un frein qui est aujourd'hui important, c'est le fait que les femmes s'occupent principalement de la famille. Et cette culture aussi qu'on a en France, donc plutôt dans les entreprises, je ne peux pas parler pour les associations, du présentiel, qui n'est pas forcément présent dans d'autres pays. C'est-à-dire que si on veut monter, il faut rester tard, il faut être présent à une discussion qui va avoir lieu à 20h. Les réunions stratégiques sont soit tôt le matin, soit tard le soir. Alors je ne dis pas que c'est vrai dans toutes les entreprises, mais on a cette culture du présentiel qui est là et plus on est présent, plus on est performant. Et forcément, quand on met en face le fait que les femmes à 80% ont en charge le foyer, eh bien ça devient difficile pour elles de cumuler les deux et du coup de pouvoir saisir les opportunités.
Christophe Milazzo.
Christelle Moireau, est-ce qu'on peut aussi parler, notamment en politique, d'une sorte de cooptation où les hommes qui sont en place, notamment en poste électif, s'interpellent les uns les autres pour garder un petit peu la main? Est-ce que c'est un sentiment qui existe? Est-ce que c'est plus difficile de percer quand on est une femme?
Je pense que ça a été, enfin, historiquement, de toute façon, c'est vrai qu'à un moment, ils étaient tout seuls. Donc, c'est vrai que, voilà, il y avait aussi tout un réseau qui va avec. Effectivement, cette notion de cumul de mandats, on le voit, quand on est, c'est aussi plus facile quand on connaît bien les choses de cumuler des mandats. Je dis pas que c'est pas une chose simple pour, c'est pas forcément forcément une volonté, c'est-à-dire qu'à un moment, les personnes, elles connaissent très très bien des domaines et qu'elles sont aussi à même de pouvoir diriger d'autres commissions où elles ont déjà certaines notions et certaines connaissances. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une notion de réseau. Et c'est vrai que là, avec la période Covid, je trouve qu'il y a une sorte de rééquilibrage un petit peu qui se fait. On a moins de moments conviviaux après les conseils, les choses comme ça. Mais il y a aussi, justement, moins ces débordements là où... Mais je pense que cette cooptation, elle venait de ces moments, justement, où après le conseil, on parle entre soi, on est dans certains réseaux. Et une femme va moins être encline à rester, justement, très tard le soir, à boire un coup avec toute l'assemblée, parce qu'elle a envie de rentrer aussi chez elle et parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de choses à faire. C'est là la différence. Je pense que c'est quand même encore une notion de ce qu'on a, de notre éducation, de se dire, moi, j'ai des choses à faire aussi à la maison, parce que ça, c'est une partie, c'est la vie publique, mais moi, j'ai aussi la vie privée et mes enfants comptent. Et c'est vrai que, on peut dire quelquefois que la femme, elle s'empêche un petit peu et elle s'auto-censure. Ça, c'est vrai. De par son éducation, elle se dit, je ne dois pas être une mauvaise mère. Je ne veux pas tout sacrifier pour... Mais il y a aussi le côté, il faut faire un petit peu des efforts quand on est dans la politique pour justement créer ce réseau, être là, être disponible, ce que les hommes font et faisaient beaucoup plus facilement que les femmes, je pense.
Complément du côté des hommes, justement, Marc Dupont ou Renaud Drouy, sur ce que vous pouvez observer, sur les freins.
La notion de réseau aussi, peut-être, et de cooptation, ouais, dont on parlait, si elle est vraie dans le milieu associatif ou pas.
C'est un sujet sur lequel on travaille au sein du réseau UNA, puisque la DAPA fait partie du réseau UNA national. Et on a la chance de bénéficier de ce qu'on appelle un programme de modernisation qui est financé pour partie par la CNSA et dans lequel on a un module de travail sur ce qu'on appelle le bénévolat de gouvernance. Et justement pour essayer de voir comment on peut l'élargir, alors pas, évidemment sous l'angle de la parité, mais pas seulement sous l'angle de la parité, parce qu'il y a aussi parfois des questions de survie des associations, tout simplement, parce que le bénévolat de gouvernance s'étiole parfois un petit peu. Après, je pense que il y a une vraie question autour de l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'effectivement, les exemples qui ont été pris tout à l'heure... Enfin, moi, j'étais haut fonctionnaire dans ma vie active. Voilà, le mythe de la note qu'il faut produire à 9h du soir pour aller la présenter au ministre, au cabinet, etc., parce que le monde s'écroulerait si on ne le faisait pas. Enfin bon, c'est des choses qui, heureusement, commencent à être remises en question, mais je pense que c'est pas gagné complètement.
Puis oui, ça existe encore quand même. Enfin, je vois que Christelle Moirot ou les femmes à côté là ne sont pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a certaines urgences qui imposeraient aux femmes de produire une... Aux femmes ou aux hommes, d'ailleurs.
Aux hommes de la même façon.
De produire une note...
Et puis, il y a un vrai sujet autour de la, je pense, de la formation des administrateurs et des administratrices, au sens où, effectivement, peut-être certains ou certaines se posent la question de leurs compétences en disant « Mais est-ce que je vais être à la hauteur de ce qu'on me demande ?» etc. Et donc, la façon dont les associations, pour ce qui nous concerne, répondent à cette interrogation... et aide les candidats, entre guillemets, administrateurs ou administratrices à prendre pied dans les réalités qui sont parfois un petit peu compliquées. Hein. C'est vrai que si on regarde les questions de financement de l'aide à domicile ou de la planification, c'est pas vraiment très simple. Il faut un certain temps de prise de connaissance et d'appropriation de ces sujets-là. Et donc la façon dont ça s'organise et où on fait monter en compétence les administrateurs, peuvent leur donner ou pas envie de s'investir plus. Quoi.
Christophe Miladou.
Renaud Drouy, il me semble que la GLCA s'était impliquée il y a quelques années sur ces questions de formation d'administrateurs autour des questions de la parité, autour de... Non, il me semble.
Oui, on avait travaillé sur ces questions-là. Et déjà, pour faire ce qu'on fait là, déjà un état des lieux, parce que c'est important, parce que enfin, on a l'image idyllique en fait des associations qui sont révolutionnaires et au-delà en fait des problématiques de société. Et puis une fois qu'on a fait le constat, on est dans les mêmes moules. On est dans les mêmes moules que les entreprises, on est même dans les mêmes moules que les collectivités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive pas à dépasser ces questions-là. Il y a un vrai travail à faire, effectivement. Et tant qu'on n'a pas réussi à dépasser ces questions, trouver, c'est pas dépasser ces questions, c'est trouver en fait des réponses. Hein. Qu'est-ce que je mets en place concrètement à un moment donné? Parce que effectivement, il y a à faire le constat, et c'est derrière qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, même si l'objectif est très large là aujourd'hui, mais c'est concrètement ensuite, et peut-être par petites touches, comment on peut faire bouger les choses. Et donc c'est un peu le travail qu'on avait entrepris il y a quelques années, avec peu de retours en fait des associations, parce qu'en fait, ça n'existe pas chez moi, quoi. Et du coup, c'est comment à un moment donné, déjà, on fait ce travail de prise de conscience qu'il y a là quand même quelque chose d'important qui se joue. Derrière ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, c'est comment on le fait accepter et comment on fait évoluer les choses. Voilà, donc ces trois éléments. On a réussi, nous, à aller jusque la prise de conscience, mais ensuite, c'est la question de évoluer, comment on peut faire évoluer. C'est vraiment le plus gros du travail et c'est là où on a besoin collectivement, hein, de bouger et pas l'un à côté de l'autre, d'essayer de faire ses petits trucs dans son coin. Mais voilà, il y a un vrai travail collectif à faire parce que c'est un travail de société, quoi, tout simplement.
Marc Dupont, vous faisiez allusion au fait que les femmes ne se sentent pas forcément compétentes. On parle aussi du syndrome de l'imposteur. C'est aussi des constats que vous faites, Emmanuel Perret, pour Femmes Chefs d'Entreprise.
Oui, alors effectivement, il y a aussi des choses vraiment qui sont inhérentes aux femmes, ou enfin, en tout cas la culture dans laquelle elles ont grandi. Encore toujours dans les constats, aujourd'hui, dans les levées de fonds, il y a seulement 7% de levées de fonds qui sont faites par des femmes. Donc c'est très peu. Et on se rend compte aussi sur des candidatures pour des gouvernances, eh bien en fait, c'est 20% de moins de candidatures féminines. Et ça s'explique. Alors, une explication, hein, parce que il y a vraiment ce fait des freins que les femmes se mettent. Parce qu'il y a un niveau d'exigence qu'elles ont où elles veulent correspondre à 100% aux critères d'un poste, pour intégrer un conseil d'administration ou autre. Alors que chez les hommes, en plus grande capacité d'accepter qu'ils ont peut-être 60% et qu'ils vont développer les 40% en prenant le poste. Ce qui est plutôt vertueux, hein, je pense. Et du coup, du côté des femmes, effectivement, il y a du travail à faire pour les rassurer, pour leur montrer que les homologues, eux aussi, n'ont pas 100% au départ, et ainsi de suite. Donc là effectivement, il y a du boulot du côté des femmes aussi, pour qu'elles osent, qu'elles prennent leur place, même si, au départ, elles n'ont pas 100% des compétences, quoi.
Christophe Milazzo.
Emmanuel Perret, est-ce qu'il y a aussi un travail auprès des entreprises pour les sensibiliser, oui, à ces questions de parité? Renaud Drouy nous disait que, oui, les associations ne voient pas forcément le problème, pour résumer grossièrement ce que vous nous disiez. Est-ce que c'est aussi une réalité du côté des entreprises, oui, et est-ce qu'il faut travailler avec elles pour changer ça?
Alors effectivement, il faut travailler avec les entreprises. C'est vrai que la plupart des grands groupes aujourd'hui, par exemple, mettent en place des programmes de leadership pour les femmes, pour justement elles prennent leur place. En tout cas, il y a à travailler avec les entreprises pour qu'elles créent les conditions de la parité. Par exemple, aujourd'hui, on voit dans le langage qui est utilisé pour du recrutement, il peut être stéréotypé. Et si les entreprises ne sont pas averties, entre guillemets, sur le sujet, sans faire exprès, finalement, elles engendrent aussi plus de candidatures masculines,
par exemple.
Par exemple, si on utilise des mots comme, on sait qu'il y a des mots comme offensif, être capable de s'imposer, qui vont être des qualités plutôt masculines, et qu'une femme, quand elle va voir ça, elle va pas postuler. Par contre, sur engagement, oui. Après, bien sûr, toutes les qualités empathie. Donc, quand on écrit un document, on peut travailler justement sur une communication plus inclusive. Mais ça, c'est vrai, je parle du recrutement, mais c'est vrai pour tout, les communications des directions, des différentes gouvernances. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Après, dans les entreprises, il y a aussi, effectivement, au niveau du management, travailler là-dessus. On trouve encore par moments un peu de machisme. Ça veut dire qu'il faut le révéler et travailler contre. Et puis donner aussi aux femmes de ne pas, si elles sont face à ces situations, de ne pas les accepter. Puisque qu'est-ce qu'elles font en général? Elles partent après.
Renaud Drouy.
Effectivement, il y a la question du recrutement en externe. Et puis, il y a le recrutement en interne qui est à favoriser. Quand je disais tout à l'heure, on a 69% en fait de femmes qui sont présentes dans l'économie sociale et solidaire, mais que 13% qui sont cadres, c'est qu'on doit aussi favoriser les recrutements internes qui vont permettre à des femmes en fait d'accéder à ces postes à responsabilité. Sinon, effectivement, on risque de retomber dans ces schémas où on va avoir une fiche de poste très stéréotypée et puis on va recruter un homme, quoi. Et il y a une des solutions qui est effectivement de favoriser ce recrutement interne.
Cécile Grosjean.
Tout ce qui a été dit là, je le partage entièrement. On a souvent mis en avant un frein au quota en disant il n'y a pas de femmes, on ne trouvera pas de femmes. Les viviers n'existent pas, en fait c'est faux, les viviers sont là. Il y a des femmes effectivement très présentes dans l'économie sociale et solidaire, au plan général parmi les salariés, mais aussi parmi les cadres, elles sont majoritaires parmi les cadres, mais pas dans les postes de direction. Donc elles ont les compétences, mais il y a une forme évidemment d'autocensure, parce que l'ambition est une qualité qui est plus associée aux hommes. C'est pas encore forcément bien vu d'avoir de l'ambition, d'afficher qu'on a de l'ambition quand on est une femme. Donc il y a une forme d'autocensure sur laquelle il faut travailler avec les femmes. Les réseaux féminins sont très importants de ce point de vue-là. Donner des rôles modèles aussi aux jeunes filles, leur montrer que c'est possible. Et puis, dans les processus, effectivement, de recrutement, favoriser la promotion interne, donner confiance aux femmes, travailler sur ses propres logiques, travailler aussi un climat, effectivement, bienveillant pour lutter contre les phénomènes d'agissement sexiste, les remarques, donc travailler aussi sur ces notions-là. Qu'est-ce qu'on met derrière le sexisme? Est-ce qu'on est tous bien d'accord sur ce qu'on entend là-dessus? Je sais que ce sont des notions qui ne sont pas forcément simples à appréhender et qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact, en fait, aussi sur les femmes de ces remarques, de ces certains comportements. Donc ce sont aussi des choses qui permettent aux femmes de se sentir en capacité d'investir ces missions.
RCF Pays de l'Ain, émission spéciale.
La parité dans la gouvernance, est-ce un objectif atteignable? Question posée pour cette table ronde interaction RCF. Alors, on a parlé de l'état des lieux, des freins. Peut-être on peut aussi aborder la question de la formation. Est-ce que toutes les femmes ont accès à des formations qui peuvent, soit en formation permanente, soit en formation qui peuvent amener à des postes de responsabilité? Est-ce qu'elles font ces choix-là? Cécile Grosjean, vous avez quelques...
Moi, je n'ai pas les chiffres. Je sais simplement qu'effectivement, elles ont moins accès aux formations, aussi parce qu'elles sont davantage à temps partiel et qu'elles ne vont pas forcément être jugées prioritaires pour accéder aux offres de formation.
Christelle Moirot, je sais qu'en politique aussi, il y a des formations qui sont menées, notamment par Regard de Femmes. C'est aussi un atout pour pouvoir accompagner les femmes vers les fonctions politiques et les mandats électifs?
Oui, je pense que dans tous les domaines, il faut de la formation et c'est vraiment très, très important. C'est vrai qu'une femme en elle-même, déjà, elle ne va pas savoir vraiment bien déléguer, je pense, que ce soit au niveau de sa famille ou de son travail, elle va moins déléguer. Donc, il faut apprendre à déléguer. Il faut sans doute faire des formations un peu plus dans le management aussi et c'est très important. Moi, je reviens quand même sur cette notion d'éducation. Depuis tout petit, petit, c'est vrai que voilà, il faut apprendre, je pense, que ce soit aux garçons ou aux filles, à être voilà, managé, à vraiment être le plus leader. On n'est pas voilà dans la passivité quand on est une fille et un leader quand on est un garçon. Et c'est vrai qu'après, ces enjeux-là, ils se retrouvent au niveau du couple. C'est-à-dire qu'en fait, dans le couple, il faut, on arrive, moi je trouve que voilà, on voit quand même les choses ont progressé beaucoup, mais quand on parle encore de cette charge mentale, des choses comme ça, il y a tout un poids qui pèse sur la femme par rapport à l'éducation et qui va vraiment la freiner. Pour moi, c'est un très très gros frein quand même, vraiment pour les formations, pour elle va se dire ben non, il faut déjà en premier que je me recentre sur la famille et puis après je vais essayer de faire autre chose. Mais il y a c'est un vrai poids et le couple en lui-même pourrait rééquilibrer les choses, mais c'est des choses que l'on a appris depuis tout petit et il y a cette intégration de schémas qui sont permanents quoi et qui freinent beaucoup les femmes qui font qu'elles s'auto-censurent beaucoup.
Emmanuel Perret.
Je voulais juste rebondir sur le poids qui pèse sur les femmes et qui pèse sur les hommes aussi. C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui qui veut prendre en charge le foyer pour que sa femme puisse s'épanouir professionnellement, c'est compliqué pour lui aussi. Ouais. De la même manière, quand il va à la sortie de l'école, c'est compliqué parce qu'il n'y a que des mamans. Quand il est en société, c'est compliqué de dire « moi, je m'occupe des enfants ». Enfin, il y a aussi un vrai travail de ce côté-là pour accepter que l'équilibre puisse basculer. Et donc, c'est un travail côté femme et côté homme, quoi.
Vous disiez tout à l'heure, Christelle Moirot, que vous étiez a priori contre les quotas obligatoires et le système un homme, une femme dans les listes électorales, mais que finalement, c'est ce quota et cette loi qui a permis l'avancée. Il y a une autre loi dont vous faisiez allusion aussi, Emmanuel Perret, donc la loi Copé-Zimmermann. Est-ce que finalement, la loi peut aider à progresser et ça serait une loi... Donc vous parliez, Cécile Grosjean, de cumul de mandats électifs, que ce soit dans le domaine associatif ou politique ou autre. Est-ce que la loi ou une loi pourrait faire avancer des choses,
Cécile oui, Grosjean? La loi, elle ne règle pas tout, mais elle accélère les choses. Donc la loi Copé-Zimmermann, dont parlait Emmanuel Perret, elle fixait des paliers. D'abord, la loi, elle ne fait pas la révolution, hein. Elle impose une progressivité dans la représentation des femmes. Et puis, on voit bien qu'en 10 ans, parce qu'on a fêté cette année les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann, on a dépassé l'objectif qui était de 40%, on est plutôt à 45%, mais dans les très grandes entreprises qui sont cotées. Par contre, ce qu'on attendait de cette loi, et c'est notamment la députée à l'origine de cette loi qui en parlait récemment, c'était un effet de ruissellement sur les autres entreprises et puis aussi sur les comités de direction, les comités exécutifs, là où les décisions se prennent au quotidien pour la vie, la gestion des entreprises. Et cet effet de ruissellement, il a été dans les faits très, très faible. L'Assemblée nationale a discuté une nouvelle loi justement pour imposer des quotas dans ces comités exécutifs et ces comités de direction. Donc l'Assemblée nationale a adopté cette loi, mais elle doit encore être discutée au Sénat. Et donc on voit bien qu'à chaque niveau, finalement, il faut être très dans la granularité des postes pour que cet effet de ruissellement soit visible et permette une représentation dans toutes les instances.
Quels outils ? Autre outil, quelle solution pour que cette parité dans la gouvernance progresse, pour qu'on termine par répondre par l'affirmative, mais en donnant peut-être des pistes, puisque vous avez tous dit oui tout à l'heure à la première question. Renaud Drouy, vous disiez, il faut qu'on s'en empare.
Je crois que les pistes, on les a abordées. Il y a peut-être à rassembler tout ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. On a abordé les questions familiales. Ça veut dire effectivement, on a parlé du distanciel. Favoriser le distanciel, ça permet effectivement cette ouverture. On a parlé de l'organisation du travail. Effectivement, produire des notes à 21h, est-ce que c'est vraiment, que ce soit pour un homme ou une femme d'ailleurs, très pertinent, productif et normal, entre guillemets. On a parlé aussi... Il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément beaucoup développé, c'est la question de l'accompagnement des femmes par une forme de mentorat. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, parce que du coup, ça favorise aussi, ça encourage, ça permet de dépasser effectivement ce syndrome de l'imposteur où on se dit, j'ai pas la compétence. Et du coup, voilà, on peut le faire, on a le droit, on y a droit nous aussi, quoi. Je parle comme ça, moi. Je suis un homme. Pardon. Donc, du coup, c'est quand même ces éléments-là. Il y a les questions, on a parlé du recrutement. Je crois que ça se joue aussi, et beaucoup, dès le début. Enfin, voilà, quoi. Dès le début, c'est situer le début. Hein, mais pour, dans une entreprise, dans une association, c'est au moment du recrutement. Je pense que c'est interne. Et puis, c'est la question de la gestion des ressources humaines, en fait, au sein de l'entreprise. C'est comment aussi on va favoriser la formation. La question de la formation qui a été abordée, c'est la question de l'organisation du travail. Hein. Voilà, c'est tout simplement. On n'accède pas aussi à la formation parce que on ne s'autorise pas, parce que j'ai pas le temps, parce que entre midi et deux, il faut que je rentre pour... Voilà.
Étendre le linge.
Oui, non, mais bien sûr. Nourrir les enfants. Et donc voilà. Quoi. Donc pour moi, il y a des pistes effectivement qui sont concrètes et qui permettent d'avancer.
Marc Dupont.
Oui, il y a la loi de la République et puis il y a les lois internes que les associations peuvent se donner. Sur cet exemple-là, je pense aux efforts qu'a fait la CFDT pour ne pas la nommer sur le plan syndical, qui a pris en compte ces questions de parité depuis pas mal de temps. Et qui avait un peu un regret, mais enfin, on pourrait en discuter, instaurer un système de quotas sur les candidatures, par exemple, aux instances nationales. Et c'est ce qui a permis de faire avancer la parité dans les instances nationales. Et je pense que si on voulait reprendre ça, on pourrait dire que le système des quotas imposés, c'est la plus mauvaise des solutions à l'exclusion de toutes les autres, quoi. C'est-à-dire que si effectivement... Il n'y a pas de baguette magique pour avancer là-dessus. Donc il faut créer les conditions pour reprendre votre expression. Il faut travailler sur la loi de la République et sur la loi interne. Et c'est en combinant tout ça, alors avec quota, sans quota, à la limite, peu importe, du moment que... Enfin, peut-être pas peu importe, mais je pense que la question des quotas peut être un détour, comme on l'a connu, par exemple, sur l'emploi des travailleurs en situation de handicap, où on voit bien que... Au niveau international, cette approche des quotas est plutôt condamnée parce qu'elle est stigmatisante et que la question, c'est de revenir dans le mainstream, dans le droit commun, etc. Mais qu'en même temps, c'est quand même ça qui a fait avancer la situation, au moins dans notre pays, quoi. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut arriver à articuler pour avoir quelque chose qui dépasse les bonnes intentions, quoi.
Vous aimeriez rajouter, mesdames, en mot de conclusion?
Moi, je pense quand même qu'effectivement, dans l'entreprise, il y a beaucoup à faire encore. C'est-à-dire que je pense vraiment au niveau du travail, ça reste très compliqué. C'est-à-dire que les quotas, et on a fait avancer les choses un petit peu au niveau politique, même si maintenant, il faut que les femmes s'en emparent, se fassent confiance, osent. Mais dans l'entreprise, dans l'évolution des carrières, il y a encore vraiment des gros, gros freins. Il n'y a pas de quotas, hein. Et c'est vrai que, quelque part, on peut se poser la question au niveau de l'entreprise, comment faire en sorte que les femmes osent aller demander plus souvent aussi une juste rémunération, une augmentation. Elles se freinent là aussi. Et moi, je trouve que c'est plus compliqué dans l'évolution de carrière des femmes. Et ça aussi, ça joue sur toute leur vie, en fait.
Manuel Perret.
Oui, pour poursuivre, effectivement, moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est vraiment de créer des modèles à tous les niveaux pour que ça ouvre, en tout cas, les possibles dans les conscients et les inconscients de tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes. Et c'est vrai que pour moi, les quotas, ça me paraît indispensable parce que je ne vois pas comment on va y arriver, ou alors on va y arriver dans de très nombreuses années. Sans les quotas, par contre, de descendre, donc là c'est la loi qui est discutée en ce moment, c'est de descendre effectivement à des niveaux où les femmes, ou en tout cas dans des lieux où on prend vraiment des décisions, donc notamment les comités de direction, hein, et que les femmes puissent être présentes vraiment dans ces comités de direction, qu'on ait des PDG, DG qui soient présentes dans tous les médias, etc., de manière à ce que ce soit impossible pour toutes les femmes et surtout pour les petites filles, parce que l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est que toutes ces petites filles, il faut qu'elles puissent intégrer dans leur champ tout. Aujourd'hui, on sait très bien qu'elles vont moins vers les formations techniques, on sait très bien qu'elles vont moins vers des positions de leader, mais parce qu'il n'y a pas de modèle. Donc il faut arriver à créer ces modèles. Ça me semble vraiment être important. Et puis effectivement, après tout ce qui est dit dans les entreprises, effectivement, il faut travailler dessus. Et que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur le management, que ce soit travailler dans les entreprises, la question de la parentalité. Et ce sera vertueux pour tout le monde. Hein, parce que on sait que plus il y aura de parité, plus l'entreprise sera performante. Aujourd'hui, c'est démontré. Moi, je ne dis pas qu'il faut que les femmes dirigent toutes les entreprises, pas du tout. Il faut que ce soit vraiment à égalité, quoi. Voilà.
Cécile Grosjean ?
Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que la diversité, en fait, favorise l'innovation, qui favorise la performance. Et donc, au-delà des femmes, c'est comment est-ce qu'on intègre toutes les personnes un peu différentes et qui ont autant de valeurs et de compétences. Donc c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu d'organisation, effectivement, parce qu'il ne faut pas non plus rejeter uniquement cette question-là d'intégration des femmes sur une responsabilité individuelle. Ce ne sera pas la bonne solution. Il y a de plus en plus, je vois aussi émerger des bonnes pratiques. Certaines villes, comme à Nantes, il y a des sessions de négo-training qui se mettent en place. Donc comment est-ce qu'aussi on permet aux femmes de s'entraîner à la négociation salariale pour demander une juste rémunération. Il faut des fois aller les chercher, c'est vrai, dans les domaines techniques, mieux orienter les filles dès la troisième. Donc voilà, éducation, organisation du travail, juste parentalité, parce qu'il y a des hommes aussi qui auraient envie vraiment de s'investir auprès de leurs enfants, et c'est encore pas très bien vu dans beaucoup de secteurs. Et donc c'est collectivement, et moi je redis qu'en tant que déléguée départementale aux droits des femmes, je suis vraiment à la disposition des associations, des entreprises, des élus. Vous avez cité l'action Regard de Femmes, elle avait été financée par la délégation aux droits des femmes de l'Ain pour chercher des candidatures, justement susciter des candidatures de femmes avant les élections municipales. Donc ce sont de ce type d'actions très concrètes que l'on peut déployer dans le département pour avancer.
Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette émission, table ronde interaction RCF. Donc Cécile Grosjean, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Emmanuelle Perret, vice-présidente de l'association Femmes Chefs d'Entreprise 01. Christelle Moirot, maire de Marbeau. Marc Dupont, président de l'ADAPA, et Renaud Drouy, directeur de l'AGLCA, une émission conduite avec Christophe Milazzo de Interaction. Merci.